Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous retrouvons donc Yvan Rioufol. Yvan Rioufol, bonjour. Vous vouliez nous parler d'un événement qui serait comique s'il n'avait pas cet aspect légèrement tragique. En même temps, l'exposition Vivre Ensemble qui s'est tenue durant un mois, place de la Concorde, qui a été la cible d'émeutiers suite à la victoire du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. Qu'avez-vous pensé, évidemment, de cette initiative et de cet épisode ?
Oui, bonjour Alexandre de Galzin. Oui, en effet, c'est une opération de propagande sur le vivre ensemble qui s'est littéralement effondrée sous le poids des réalités. Et c'est naturellement, effectivement, assez amusant de le constater. Ce sont des jeunes issus de la diversité sacralisée, qui ont en effet mis à sac mercredi soir, après la victoire du PSG contre le Bayern, à Munich, non pas à Paris, mais à Munich, ils ont mis à sac cette exposition qui avait été conçue par le photographe Yann Arthus-Bertrand et par le démographe Hervé Lebras, qui lui est bien connu effectivement pour ses positions pro-immigration et qui, de ce point de vue, pourrait être assimilé à une sorte de Lysenko de la démographie officielle, en tout cas tant il s'emploie à sous-évaluer les effets, en l'occurrence désastreux, de la société ouverte, c'est-à-dire cette utopie qui est aujourd'hui partagée, défendue par l'ensemble des progressistes. Or, ce que l'on voit, c'est que ces progressistes sont incapables naturellement de se confronter aux réalités parce que le poids de l'idéologie est tel que Yann Arthus-Bertrand lui-même, constatant l'échec de sa cause, dans le fond, a déclaré, et là je le cite, on va continuer à croire au vivre ensemble et plus que jamais. Et là, fermez les guillemets. Et donc là, on est malgré tout au cœur de l'aveuglement suscité par les dogmes, par les croyances. Il y a toute une gauche et toute la bien-pensance, dans le fond, qui pense comme ce photographe et qui pense comme ces clichés, c'est le cas de le dire en l'occurrence. C'est-à-dire que pour eux, le vivre ensemble n'a pas d'autre alternative en dépit de ces désastres qu'il produit. Et même si effectivement les esprits les plus lucides conçoivent que ces désastres sont causés par des minorités, ils ne veulent pas voir que derrière cette minorité, il y a également un séparatisme qui s'est installé dans cette société du vivre ensemble. Et donc, moi personnellement, ça fait plus de 30 ans que moi et d'autres, bien entendu, nous essayons de dénoncer ces lents processus, mais qui s'accélèrent, de libanisation de la France sous le poids d'une immigration de masse, mais également, qui ne s'intègre plus par définition, mais également sous le poids d'une infiltration d'une idéologie islamiste qui accélère les phénomènes de contre-colonisation qui s'observent dans des séparatismes culturels, dans des séparatismes identitaires. Mais de dénoncer ceci, je l'ai déjà dit, mais il faut tout de même le répéter, est devenu très compliqué, car cela vous vaut à chaque fois, effectivement, d'être accusé de tous les maux, et singulièrement de racisme. Et donc, on ne veut pas voir que les émeutiers, encore par exemple mercredi dernier, reproduisaient derrière leur violence les rites des razzias, les rites même des intifadas, en évoquant parfois, les témoins l'ont rapporté, en évoquant parfois le Coran ou la Palestine. Et c'est ce refus des élites de se confronter aux réalités qui est intellectuellement, naturellement indéfendable et même très dangereux. Et on a pu entendre, par exemple, ces derniers jours, le maire de Saint-Denis, de M. Bagayoko, appeler à l'insurrection populaire en cas de victoire du Rassemblement national en 2027. C'est-à-dire que vous voyez que toute une gauche est devenue un véritable ennemi intérieur de la France et de sa démocratie. Et c'est en cela que l'on peut dire que les élites sont devenues aujourd'hui plus dangereuses encore que les voyous des cités, dans le fond.
Il y a une sorte de naïveté quand même qui est assez confondante encore, et puis même une volonté de croire à un mythe dont ils savent très bien que, et dont ils peuvent expérimenter même d'ailleurs, qu'il ne tient pas debout.
Oui, mais c'est en effet, mais ça c'est le vieux sujet de l'aveuglement de l'idéologie, mais ça c'est une perversion intellectuelle qui habite en effet toute cette classe élitiste qui ne veut pas se confronter à ses propres erreurs. Et le communisme s'était effondré sous le poids naturellement de ses mensonges. Et d'ailleurs, on pourrait prédire effectivement que ce vivre ensemble s'effondrera, comme s'est effondrée cette exposition, sous le poids de ses propres mensonges. Et pour l'instant, on se rend compte que ces élites sont en fait le véritable danger, car elles ont cautionné cette société multiculturelle qui est devenue, comme prévu d'ailleurs, une société multiconflictuelle. Et donc aujourd'hui, on en voit les résultats. Simplement, et on en voit les résultats d'abord avec cette installation d'un racisme anti-blanc, d'un racisme anti-français, d'un racisme même anti-catholique de plus en plus, car à voir en tout cas le nombre d'églises qui brûle mystérieusement, ou avoir par exemple le nombre de statues religieuses, de vierges décapitées, de croix abîmées, etc. Donc, et c'est pour ça que je dis que ces élites partagent avec ces nouveaux barbares, ces jeunes barbares, un même mépris pour la France et pour ses héritages historiques. Par exemple, c'est la mairie de Paris qui hier s'enorgueillissait de défendre dans le Figaro un droit au beau. Le droit au beau, c'est le nouveau leitmotiv du nouveau maire de Paris, et c'est ce maire de Paris qui a transformé lui-même la splendide place de la Concorde, qui abritait cette exposition, place de la Concorde qui avait été dessinée sous Louis XV, et qui l'a transformée en une sorte de ZAD qui a été ouverte avec cette exposition bricolée, qui aurait dû être abritée dans le fond dans un centre socio-culturel. Et c'est ce goût pour le cheap qui est révélateur de la déculturation qui a gagné toute une partie de la bourgeoisie, toute une partie d'une élite de luxe, si je puis dire. Comme l'avait bien vu l'écrivain colombien Nicolas Gomez Davila, que j'aime beaucoup à citer, le riche n'est plus qu'un pauvre avec de l'argent.
Oui, c'est une très belle phrase. Mais justement, alors, ce que vous dites, c'est que finalement, ces élites sont plus dangereuses aujourd'hui que ces voyous qui cassent.
Oui, et non seulement ces élites sont plus dangereuses, mais on le voit même au cœur même du pouvoir politique. C'est-à-dire que je soutiens qu'Emmanuel Macron est peut-être considéré lui-même, dans le fond, comme le saccageur en chef. Très dernièrement en Égypte, on a pu l'entendre prendre un malin plaisir à dévaloriser la France historique, la France française, appelons-la comme ça, et ses héritages en déclarant, et là je le cite, l'épicentre du français se trouve aujourd'hui dans le bassin du fleuve Congo et non sur les quais de la Seine. Je ferme les guillemets. Il s'est aussi félicité que l'arabe soit devenu en France la deuxième langue parler. Et donc, on voit bien qu'à travers ces déclarations provocantes, se lie une sorte de satisfaction perverse à voir la France, la vieille France, s'effacer au profit, en effet, de l'Afrique et de l'islam. Et en réalité, rien ne différencie plus, rien n'a jamais d'ailleurs vraiment différencié le Macron de Mélenchon, qui tous deux partagent une même vision de cette nouvelle France qui serait une nouvelle France métissée, créolisée, islamisée, ouverte en effet de plus en plus à l'Afrique, à l'Afrique noire ou au Maghreb. Et pour eux, le vivre ensemble, dans le fond, ce vivre ensemble donc, que défendait Yann Arthus-Bertrand, n'est qu'une invitation faite à la France à se dissoudre toujours davantage, à disparaître dans un mondialisme indifférencié, dans un mondialisme de plus en plus d'ailleurs tiers-mondisé. Et c'est en cela que je soutiens en effet que les élites sont plus dangereuses que les barbares des cités, qui ne sont que le produit de leur irresponsabilité.
Mais pour conclure en deux minutes, Yvan Rioufol, on a même l'impression que ces élites devancent les éventuels désirs de ces barbares, notamment sur l'immigration, sur le multiculturalisme en France, sur cette phrase sur le fleuve Congo. En fait, même les Africains, même les Congolais ne vont pas jusqu'à prononcer cette phrase.
Bien sûr, les élites ont décidé, dans le fond, de flatter cette préférence étrangère qui est toujours cette perversion intellectuelle qui habite le progressisme depuis maintenant un demi-siècle, depuis 50 ans, où en effet, par haine de soi, parce qu'en fait, le ressort de tout ceci, c'est effectivement une sorte de haine de soi qui habite, encore une fois, les élites françaises et qui deviennent traîtres à leur propre cause, dans le fond. Et en effet, elles en arrivent à aller au-delà de ce que demandent, bien entendu, les populations immigrées qui viennent nous rejoindre et qui viennent nous rejoindre souvent pour précisément fuir des régimes ou des cultures qui ne leur conviennent plus. Mais arrivant en France, elles se trouvent aujourd'hui face à un discours commun qui laisserait comprendre que le pays qu'elles ont choisi serait un pays qui lui-même aurait à renier ses propres racines. Donc, on est effectivement dans cette grave irresponsabilité que reflétait bien, dans le fond, cette exposition. C'est pour ça que j'ai voulu m'y attarder, même si l'exposition en elle-même était assez banale, dans le fond. Je trouve que ces successions de clichés, pour le dire très littéralement, parce que c'était une exposition qui reproduisait 150 photographies de divers métiers censées représenter la diversité de la France, on voit bien que derrière ces clichés, effectivement, se cache un manque de réflexion ou même une sorte de détestation aujourd'hui de ce qu'est la France dans sa continuité historique.
Merci beaucoup Yvan Rioufol d'avoir été avec nous ce matin. Écoutez, on vous dit à très bientôt ici sur Ligne Droite. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ligne Droite, le monde autrement, Mériadec Raffray.
Et pour ce nouvel entretien, je cède comme d'accoutumé la place à Richard de Sèze auprès de Mériadec Raffray.
Merci Alexandre et bonjour à Mériadec Raffray.
Bonjour Richard, vous allez bien?
À merveille, et vous?
Impeccable. Heureux de vous retrouver.
Je rappelle que...
Et Alexandre aussi, ça me fait grand plaisir de le voir.
Mais voilà,
on est tous extrêmement élégants ce matin.
Ouais, c'est très aimable de votre part.
Merci. On est tous contents d'être là. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles. Et c'est le moment de revenir un peu sur le Liban, qui est en train d'être massacré. Non pas dans l'indifférence générale, mais dans l'apathie générale.
Alors, ouais, je dirais massacré et surtout abandonné. Abandonné au massacre, j'essaye de tirer le fil que vous venez d'initier, c'est vrai. Je pense qu'on est à un tournant à nouveau pour le Liban, et d'ailleurs les Libanais le sentent, le disent, alors à leur façon, à leur manière, car les Libanais sont des gens qui ne sont jamais complètement pessimistes et complètement optimistes, ils sont toujours un peu les deux, il faut savoir décrypter, mais effectivement nous sommes à un tournant. Pour résumer le tournant qui pourrait faire basculer ou pas d'ailleurs le Liban, enfin, soit dans l'abandon, soit peut-être vers la paix, c'est les discussions qui ont lieu à Washington, dont le troisième round va avoir lieu à Washington cette semaine, sous l'égide de Donald Trump, qui a besoin, je pense l'avoir déjà dit ici, vraiment de cet accord, d'un accord symbolique, d'une poignée de main entre le président Joseph Aoun, qui est le président du Liban, et le premier ministre Benjamin Netanyahou, pour en quelque sorte offrir cette poignée de main en trophée aux Iraniens qui réclament comme un des préalables d'une négociation globale de paix entre Washington et l'Iran, les Iraniens réclament l'arrêt des combats au sud du Liban. Alors, il n'y a pas que ce préalable, mais puisqu'on est sur le Liban, c'est vraiment ça. D'ailleurs, ils l'ont redit à nouveau ce dimanche, lorsqu'ils ont expliqué qu'ils avaient renvoyé la dernière copie du projet circulant de paix globale circulant entre Washington et Téhéran, via d'ailleurs le Pakistan. Les officiels iraniens à la télévision ont expliqué qu'ils avaient à nouveau, réclamé comme préalable la paix au Liban. Que Donald Trump soit vraiment intéressé au sort des Libanais, ce dont on peut douter, ou qu'il ne soit pas intéressé, toujours est-il que Donald Trump pèse, tord le bras aujourd'hui à Netanyahou d'un côté, ou il tord un des bras de Netanyahou plutôt, pour aller dans ce sens, pendant que l'autre bras de Netanyahou continue à meurtrir, à frapper le Liban. Les Libanais en fait comprennent bien que la situation a évolué de telle sorte qu'ils sont un peu dans la même situation, si vous voulez, qu'en 1982. Pourquoi 1982? En 1982, le premier ministre israélien de l'époque, Menahem Begin, ordonne l'invasion du Liban par Tsahal. C'est après l'épisode de 1978, la première fois que Tsahal est rentré au sud du Liban pour faire taire à l'époque les tirs des Palestiniens de l'OLP sur le nord d'Israël. Vous voyez que c'est toujours le même sujet. On déploie une force de casque bleu. les choses s'apaisent plus ou moins, et en fait moins que plus, et le Premier ministre à Tel Aviv décide d'envahir complètement le Liban jusqu'à Beyrouth pour casser les reins définitivement de l'OLP de Yasser Arafat, cette OLP palestinienne qui à l'époque n'est pas sous le contrôle de l'Iran mais plutôt en lien d'accointance avec les soviétiques, l'Union soviétique, puisque je vous rappelle qu'on est en pleine guerre froide. C'est un massacre pour Beyrouth. À l'époque, il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Ariel Sharon, qui est un général qui est à la tête de des premières forces qui arrivent dans Beyrouth et qui déploie une artillerie absolument incroyable, des bombardements absolument incroyables sur Beyrouth. Je vous rappelle aussi que c'est l'épisode des massacres de Sabra et de Shatila.
Qui étaient des camps de réfugiés palestiniens.
Qui étaient des camps de réfugiés palestiniens, qui ont été massacrés par des éléments des forces chrétiennes libanaises dans une véritable volonté de vengeance, mais je dirais permise ou encouragée ou en tout cas permise par les Israéliens qui contrôlaient l'entrée de ces camps et qui leur ont permis de commettre ces massacres. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que très vite, l'armée libanaise comprend que politiquement, militairement et politiquement, c'est une impasse. Ils décident, Begin décide donc de parier sur un jeune leader absolument incroyable, charismatique, un vrai homme d'État libanais comme il existe peu, qui s'appelle Bachir Gemayel. Ils négocient ensemble l'accord du 17 mai 1983, dont on va fêter les 50 ans cette année. Bachir Gemayel, dans la foulée, est élu président de la République. Le 23 août, si mes mémoires est bonne, 1982, et le 14 septembre suivant, il est assassiné par ces forces obscures, puissantes forces obscures, plus ou moins obscures d'ailleurs, qui évidemment ne veulent pas de la paix au Liban pour des raisons diverses et variées. Parmi ces forces obscures, on peut citer évidemment les Syriens, peut-être aussi les Iraniens, et si j'en crois l'excellent franco-libanais Michel Fayad, sans doute aussi les États-Unis. Bref, la paix explose. Et le Liban, d'ailleurs, va dénoncer cet accord un an plus tard, en 1984. Et nous sommes repartis dans un cycle de guerre. Et en fait, c'est le nouveau... Les Libanais voient aujourd'hui, à travers Donald Trump, quelles que soient ses raisons, un nouvel espoir de règlement global du contentieux, si vous voulez, libano-israélien. Possible. Et pourquoi il le voit possible? Et c'est là où la situation au Liban, d'ailleurs, a évolué. C'est-à-dire que si on fait un peu un bilan de la guerre de 2024 et celle de 2026, celle qui a recommencé. Alors, je vais pas faire le bilan militaire, mais je vais faire le bilan politique de cette guerre. En fait, ce que l'on constate, c'est que le Hezbollah a ressurgi et René s'est réveillé de ses cendres le 2 mars 2026. Je vais essayer d'être assez clair parce que c'est compliqué. Tout le monde disait, après la campagne de frappe israélienne doublée de cette infiltration de l'intérieur de l'hydre chiite par le Mossad depuis des années, avec qui s'était terminé, dont le point d'orgue avait été les opérations des beepers, rappelez-vous, tous ces téléphone piégé qui explose au mois de septembre ou octobre 2024 et qui, pense-t-on, va décapiter une partie des cadres du Hezbollah. Et tout le monde pensait, les experts libanais, français, israéliens, tous pensaient que le Hezbollah avait été atteint dans sa chair pour la première fois, très affaibli. Et le 2 mars 2026, aux surprises, au moment où les gardiens de la révolution iraniens sur place leur ordonnent recommencer à tirer sur Israël, le Hezbollah renaît de ses cendres, sort de ses tunnels, ressort de ses caches et envoie ses missiles et surtout ses drones et surtout ses roquettes sur le nord d'Israël et la guerre reprend. Donc c'est l'échec du constat, du bilan que faisaient les experts, de tous les experts, de tous les camps du Hezbollah. chez les Libanais, moi je me rappelle avoir rencontré notamment des policiers libanais de haut niveau qui me disaient « Mais monsieur Raffray, jamais on ne pourra neutraliser cette hydre qui se cache partout. Peut-être que derrière moi, mon voisin est du Hezbollah, on ne sait pas, c'est impossible. » Et j'étais assez dubitatif étant donné l'avis unanime des experts militaires et stratégiques. Force est de constater aujourd'hui que le Hezbollah renaît militairement. De l'autre côté, de manière complètement contre-intuitive, il y a un véritable affaiblissement politique du Hezbollah au Liban, de l'aura politique du Hezbollah. Quelqu'un comme par exemple Fouad Abou Nader, qui est une personnalité incroyable du camp libanais, qui a été le patron des forces libanaises après Bachir Gemayel dans les années 84-85, un leader militaire incontesté, aujourd'hui un homme au-dessus de la mêlée des élus, des dirigeants politiques qui force le respect de beaucoup de dirigeants politiques libanais, estime qu'à peu près au moins un tiers de la communauté, de la population chiite est très remontée, très hostile. Alors je ne parle même pas des chrétiens, je ne parle même pas des sunnites, dont la grande majorité aujourd'hui nourrit une hostilité forte envers le Hezbollah. Je parle des chiites, c'est-à-dire le cœur du soutien, l'eau du poisson chiite, si vous voulez, pour reprendre une expression chinoise. Eh bien, cette communauté, au moins un tiers, d'autres disent un peu plus, vont jusqu'à 50%, seraient aujourd'hui très hostiles au Hezbollah. La raison est simple, c'est que ces guerres qui s'empilent, qui s'empilent les unes sur les autres, qui n'en finissent plus au sud, le premier impact politique et social va sur les chiites, sur la communauté chiite. Alors pas au sud, pas qu'au sud d'ailleurs, au sud Liban bien sûr, mais dans la plaine de la Beka ou au nord-est du Liban où vous trouvez une forte communauté chiite, les bombardements israéliens incessants ont causé à l'automne 2024 des destructions incroyables. La banlieue de Beyrouth Sud est aujourd'hui méconnaissable tant elle a été défigurée, cassée par les bombardements d'une violence inédite dont
Beyrouth,
on a parlé.
Beyrouth est plus détruite que Téhéran.
Alors ça, je ne sais pas.
Les gens qui parlent de Téhéran disent, enfin notamment les gens d'Omerta qui sont allés à Téhéran disent, en fait, il y a quelques immeubles qui sont écroulés.
Attendez, quels gens d'Omerta ont été à Téhéran depuis le début de la guerre?
Comment s'appelle-t-il le camarade Il a un nom là, Charles d'Anjou.
Il a été à Téhéran depuis le mois de le 28 février dernier.
Oui.
Grande nouvelle, j'aimerais bien parler avec lui. Dont acte. En tout cas, la banlieue sud de Beyrouth, ça j'en suis certain, est défigurée. Et donc, cette population chiite, les déplacés, c'est 1,2, 1,4 million de Libanais aujourd'hui qui campent dans des hôtels, dehors, dans des endroits improbables. Pour vous donner une idée, pour donner une idée aux auditeurs, c'est la population libanaise complète, c'est à peu près 4 millions et demi de personnes. C'est monstrueux. Et en plus, comme je le disais au tout début de cette guerre, et ce qui a d'ailleurs choqué un certain nombre de franco-libanais parisiens, mais je maintiens, aujourd'hui la différence des autres conflits, c'est que les Libanais charitables, c'est-à-dire les chrétiens qui pratiquent toujours la charité, moi je l'ai vu, c'est vraiment touchant et incroyable, sont aujourd'hui très réticents à accueillir dans leurs écoles, dans leurs maisons, dans leurs foyers, dans leurs hôtels, des chiites parce qu'ils ont très peur que se cachent dans ces populations réfugiées des gens identifiés comme les Hezbollah par Israël et qu'ils prennent une frappe de missile une nuit comme c'est arrivé à de nombreuses reprises.
Vous nous l'aviez dit il y a quelques semaines à cette antenne, effectivement, là on sent que le Hezbollah a perdu de son aura politique et on comprend bien que du point de vue du Hezbollah, le fait d'attaquer Israël, c'est une défense normale, que c'est, après tout, le Hezbollah se vit comme étant une force d'opposition aux invasions israéliennes, une force de résistance qui est née, évidemment, aussi pendant les quelques 20 ans ou presque d'occupation israélienne. Et donc, ils ont ce côté patriote libanais. Par ailleurs, les Libanais, eux, n'en peuvent plus de ces patriotes qui les jettent en permanence dans la guerre. Côté israélien, il suffit que Israël soit attaqué pour qu'il soit légitime de riposter, y compris en envahissant le territoire. Là où le Liban paraît sacrifié, abandonné, c'est qu'on a l'impression que Le but de guerre premier était en fait la conquête de l'Iran, ou en tout cas le changement de régime iranien, la défaite de ce qu'on appelle le régime des Mollahs, et que maintenant le Liban paraît être un objectif de guerre secondaire qui devient la victoire possible pour Israël, puisqu'elle n'a pas réussi pour le moment à faire tomber l'Iran.
Alors, le Hezbollah a été effectivement considéré comme un mouvement de résistance, je mets des guillemets, par une partie des chrétiens, effectivement, qui considéraient qu'ils étaient le dernier bouclier face à l'envahisseur du Sud. Mais aujourd'hui, et c'est là où je voulais en venir, c'est que non seulement le Hezbollah a perdu son aura dans une partie de la population chiite, mais la partie des chrétiens libanais qui considéraient encore que finalement, bon an mal an, le Hezbollah était une force de résistance, ont basculé aujourd'hui. Et la plupart des chrétiens, désormais, si ce n'est l'immense majorité, estiment que c'est en fait la cause de tout leur malheur, et que ces gens-là, en fait, finalement, sont dans une logique suicidaire, totalement, en fait, guidée par Téhéran, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus des résistants libanais, mais ils sont une force au service de l'Iran, et qu'ils sont l'objet d'un malheur récurrent au Liban, pardon, et aujourd'hui la perspective que tous ces gens-là ont, qu'ils soient chrétiens ou sunnites d'ailleurs, c'est que à force d'apporter le malheur sur le Liban, ce Liban lézardé de plaies béantes et saignantes pourrait finir par imploser. Et aujourd'hui, il y a une très très forte crainte qui est ressurgie, même si on le voit pas se matérialiser dans les semaines qui viennent, c'est à la crainte à nouveau que les tensions ne dégénèrent en guerre civile. Et c'est la raison pour laquelle, pour terminer ma démonstration, et je viendrai ensuite sur votre question, c'est la raison pour laquelle les Libanais fondent un nouvel espoir dans Donald Trump de réussir à faire en sorte que Beyrouth et Jérusalem puissent surmonter leurs immenses difficultés, qui sont réelles, qui demeurent réelles, pour aller vers une paix qui serait bon an mal an, une paix comme celle du 17 mai 82, qui comportait d'ailleurs la garantie de l'intégrité territoriale du Liban à l'époque, comme me le soulignait l'historien Michel Fayad. Donc on en est là aujourd'hui. Et de l'autre côté, et c'est votre question, votre relance, de l'autre côté, il y a comme un déport en fait des guerres, c'est-à-dire le 28 février, effectivement, l'objectif principal de la guerre israélo-américaine, c'était l'Iran islamiste, c'était le nucléaire iranien, c'était le nucléaire balistique, c'était le nucléaire, et c'était les proxys de l'Iran. Et en fait, cette guerre, change de visage. Elle évolue dans une forme de bras de fer qui est plutôt économico-sécuritaire. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à travers la passe d'armes entre la marine américaine et les gardiens de la révolution dans le cœur même du détroit d'Ormuz. Une espèce de guerre larvée pour essayer de régler ce problème du détroit d'Ormuz qui n'était pas fermé avant que les Américains interviennent. On peut le dire à nous. Ça ne mange pas de pain. Et finalement, si vous voulez, les Israéliens estiment, d'ailleurs ils le disent, l'ambassadeur me l'a dit ici à Paris, et tout le Jérusalem me le dit, ils ont atteint leurs objectifs. Ils considèrent aujourd'hui que l'Iran n'est plus une menace vitale, c'est pas le terme exact qu'ils emploient, mais une menace
existentielle.
Merci Richard Jouagou, suivez ça très très bien. Une menace existentielle pour Israël. Ils considèrent que l'Iran n'a plus les moyens potentiellement de fabriquer une bombe. Ils considèrent que l'Iran n'a plus les moyens en missiles suffisants pour jouer la survie d'Israël.
L'Iran qui a même d'ailleurs proposé de diluer son uranium enrichi.
C'est encore un autre sujet, pense.
On voit effectivement que ce que dit Israël n'est pas non plus une espèce de vœu pieux, et que dans les dernières propositions faites par l'Iran, il y a un recul, si je veux dire, de l'arme atomique.
Mais concentrons-nous sur le, sur le sujet libanais, si vous le voulez bien. Cette guerre, finalement, devient, pour Israël, une guerre de seconde zone, de second rang, un front finalement d'ailleurs où elle n'agit plus directement. En revanche, en contrepartie, Israël en fait continue d'agir au sud Liban dans cette espèce de vraie fausse trêve, comme je l'ai appelé, et ce qui fâche les autorités israéliennes d'ailleurs, qui considèrent que même si la trêve a été actée le 17 avril dernier, les conditions dans lesquelles cette trêve a été actée intègre le fait qu'Israël, dit-elle, a toujours le droit, un droit de suite sur le Hezbollah au Liban, ce qui, selon elle, justifie amplement le fait qu'elle continue à déployer en fait sa stratégie de la terre brûlée au sud Liban, au sol, d'une part, et d'autre part, ce droit de suite via les airs, via les drones, via les avions, sur le Hezbollah, ses arsenaux, au sud Liban entièrement, mais aussi dans tout le pays, puisque la semaine dernière, par exemple, avec la permission de Washington, on dit les autorités israéliennes, elles ont à nouveau, et je crois que c'est une première depuis le 17 avril, frappé un immeuble de la banlieue sud de Beyrouth, dans lequel se trouvait un commandant de la force Al-Radwan. Et là où il y a
un immeuble. Je voudrais qu'on revienne sur cette idée admirable de trêve.
Attendez, je voudrais aller jusqu'au bout de ma démonstration. Et là où le basculement peut avoir lieu, c'est qu'on peut imaginer trois scénarios. Les Libanais disent la paix est entre les mains de Trump. Et ils disent Trump doit négocier avec les Iraniens et obtenir des Iraniens un désengagement de ses proxys. Ce qui contraindrait, disent-ils, l'Iran tout simplement à rendre ses armes à l'État libanais. Scénario franchement idéal, quasiment aucune chance d'arriver. Le scénario le pire, que le bras de fer dans le détroit d'Ormuz dégénère et que la guerre ouverte recommence. Et alors là, c'est une guerre à l'impact mondial. C'est déjà le cas. L'impact serait vraiment mondial. Et à ce moment-là, le Liban serait, à mon avis, passé par pertes et profits de ce conflit. Scénario vraiment le pire. Et entre les deux, je pense que c'est vers cela qu'on se dirige, on verra, c'est que finalement Donald Trump réussisse à obtenir un espèce de semblant d'accord avec les Iraniens qui lui permettent de crier victoire, qui ne soit évidemment pas la négociation, capitulation qu'attendent les Israéliens pour mettre un point d'orgue à leur conflit existentiel avec l'Iran. Et en contrepartie, Donald Trump donnerait un feu vert quasiment perpétuel à Israël pour poursuivre en fait sa stratégie de terre brûlée et de frappe du Liban jusqu'à temps qu'elle soit fatiguée, soit que le Hezbollah, pense-t-elle, couche les pouces. Et c'est là le scénario catastrophique, c'est qu'on se dirigerait vers, un scénario de guerre, de chaos, et ce chaos militaire pourrait lui-même engendrer, générer ou être les détonateurs en fait de ces tensions intra-communautaires que l'on observe aujourd'hui, et au bout de cela il y aurait à nouveau la guerre civile au Liban. Donc voyez, pour terminer le raisonnement, pardonnez-moi, mais voyez qu'on est dans une espèce de bascule. D'un côté, la majorité des Israéliens aujourd'hui voient à nouveau la lueur, la perspective d'une réconciliation globale avec le voisin du Sud, et de l'autre, force est de constater que la situation sécuritaire peut dégénérer et peut à nouveau créer le chaos au Liban. Et dernière pièce du puzzle que je voudrais présenter à vos auditeurs ce matin pour être complet, c'est la pièce française. Cette pièce française, Emmanuel Macron considère qu'il est l'un des parrains, des protecteurs positifs du Liban. Les Libanais voient bien, mesurent bien son influence déclinante, et celui-ci en fait anticipe la sortie de la finule du Liban Sud, qui est, je l'ai critiqué, mais il faut dire aussi que c'est le dernier rempart finalement physique à cette politique de la terre brûlée israélienne au sud du Liban. Les Libanais ont très peur du vide, et ils ont très très peur que la France jette aussi l'éponge, car autour d'Emmanuel Macron, en fait, la réalité, que vous preniez les diplomates ou les militaires, c'est que tous sentent que l'issue, la situation est sans issue. Tous veulent débrancher, sortir leurs doigts de cette prise libanaise qui devient sans issue. Et donc finalement, le seul qui rêve encore de pouvoir jouer un rôle au Liban, c'est Emmanuel Macron. Autrement dit, nous sommes au bord de l'abandon du Liban par ses parrains, ses protecteurs. J'en veux encore un exemple pour preuve, cette fameuse conférence des donateurs financiers que Emmanuel Macron a reportée deux ou trois fois déjà, eh bien en fait, elle repose sur des dons des ceux qui ont de l'argent, les parrains, les alliés arabes du Liban, les Saoudiens, les Qataris, et ceux-ci en fait ne veulent pas donner d'argent tant que la situation n'est pas réglée avec le Hezbollah. Nous en sommes là aujourd'hui, Richard, et à nouveau, je tremble pour le Liban chrétien.
Et même le Liban dans son intégralité, puisque c'est une nation composite, et on voit bien que c'est devenu une nation multiethnique, avec l'heureux résultat qu'on connaît pour les trois quarts des nations multiethniques. Les ethnies, en fait, ne réussissent plus à coexister. C'était quand même une construction fragile, ce Liban.
Oui, exactement. J'allais vous corriger, pardonnez-moi, mais en fait, ce modèle libanais consistait à institutionnaliser un modèle de coexistence pacifique. Parce qu'en fait, au Liban, les communautés ne se mélangent pas vraiment. Les seules communautés qui se mélangent, et là où il y a un mélange, c'est avec les chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens et des chiites, des chrétiens et des sunnites. Mais il n'y a pas de sunnites, il n'y a pas de chiites ensemble. En fait, au Liban, on vit côte à côte et non pas ensemble. Il y a une espèce de hiatus, une déformation vue de France. Mais ce modèle, évidemment, on voit bien toutes les limites aujourd'hui de ce modèle. C'est un modèle d'ailleurs très artificiel qui avait été, instauré par les Français. À la fois dans cette mosaïque, le fait que cette mosaïque, il y a 18 communautés différentes religieuses et ethnico-religieuses, si vous voulez, au Liban, ce qui est considérable sur un tout petit territoire. C'est en fait un tout petit territoire dans lequel en fait les gens fonctionnent de manière toujours féodale. On a son clan, son village, sa montagne, son chouf, le maten pour les Libanais. Et les Libanais, en fait, il leur manque une chose et ils payent une chose, c'est l'absence de consensus national et l'absence de principes étatiques. Et d'ailleurs, je citais tout à l'heure Fouad Abou Nader, il me dit pour la première fois depuis le début de notre histoire, les Libanais partagent un véritable consensus, c'est celui qu'il faut faire sauter le statu quo pour aller vers la paix. Il me dit, rien que cela, c'est une petite révolution.
Eh bien, merci beaucoup, Meriadec Raffray, de nous avoir éclairé sur le Liban. Juste rapidement, et en attendant qu'Alexandre de Galzin nous rejoigne, à votre avis, la paix au Liban, cette trêve qui dure depuis le 17 avril et qui est en fait un permis de tuer accordé à Israël, qui,
voilà, on peut le dire comme ça.
Ça va durer combien...
Pour une fois, je suis d'accord avec vous.
Ça va durer combien de temps encore?
En fait, c'est une très bonne question. En fait, Israël a, à mon avis, très conscience qu'elle est dans un piège. Le piège de l'hubris. Le fait de croire qu'une accumulation de victoires tactiques donnera une victoire stratégique, on l'a démontré le 2 mars, le Hezbollah a renaît de ses cendres. Et donc Israël a bien, les généraux israéliens ont bien conscience d'être dans un piège. D'ailleurs, le Hezbollah ne rêve que d'une chose, c'est que les chars et les fantassins israéliens rentrent vraiment dans la profondeur du sud Liban pour pouvoir les acculer dans ces petites collines et petites montagnes dans lesquelles ils sont les maîtres. Et en fait, on voit bien que Israël ne sait plus comment se sortir de cet engrenage qui ne peut que pourrir. Et donc, en fait, je pense qu'à un moment donné, Israël va être obligé de tirer les leçons de cette situation militaire et trouver une porte de sortie.
Merci beaucoup, Meriadec Raffray.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. 7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et comme chaque mardi, nous retrouvons Victor Robert pour sa chronique. Bonjour Victor, vous allez nous parler aujourd'hui d'un texte législatif qui fait couler beaucoup d'encre au Sénat. La proposition de loi visant à lutter contre l'entrisme islamiste. Alors, à première vue, l'intitulé pourrait rassurer, mais vous craignez que ce texte ne se retourne en réalité contre les associations catholiques ou patriotes.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous chers auditeurs. Oui, c'est exactement cela. En fait, sous couvert de lutter contre l'islamisme, les mécanismes juridiques de cette loi ont une portée très large. Le texte crée un délit d'entrisme et il élargit les motifs de dissolution administrative, ciblant notamment le fait de se prévaloir d'opinions religieuses pour s'affranchir des règles communes. Ce texte va permettre le gel des avoirs pour des motifs assez vastes, incluant notamment la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou même l'identité de genre. En réalité, ce texte offre à l'État une sorte de gros bâton pour cibler, condamner, geler les fonds d'associations dont les opinions déplaisent à l'idéologie progressiste dominante.
C'est d'ailleurs pas une crainte purement théorique. Quelles sont Quelles sont concrètement les pressions médiatiques, bancaires ou judiciaires déjà subies par ces personnalités, entreprises ou associations ?
Alors la liste est édifiante et elle touche toutes les sphères de la société. Sur le plan médiatique, on peut regarder le traitement qui a été réservé à Pierre-Édouard Sterrin. Son projet de financement est pilonné par la presse, poussant des institutions même comme l'Université catholique de l'Ouest, l'ICES, à refuser ses dons sous la pression. Pensons également au Canon français, donc accusé d'être un repère identitaire ou néo-nazi par des médias comme Quotidien ou France Inter, simplement parce qu'ils organisent des banquets qui célèbrent le terroir. Pensons aussi à la chaîne CNews qui est harcelée par l'Arcom. Et sur le plan judiciaire et administratif, la répression s'abat donc lourdement. Civitas avait été dissoute en octobre 2023, le mouvement Alvarium a été dissous, son fondateur Jean-Luc Gana subit un calendrier judiciaire acharné, son dernier procès pour une simple vidéo qui a été postée sur Internet s'est tenu la semaine dernière. Les hommages, comme le défilé du comité du 9 mai, sont régulièrement interdits par la préfecture. L'enseignement catholique sous contrat, lui aussi, subit des contrôles intrusifs, qualifiés d'abus d'autorité avec des interrogatoires de très jeunes enfants qui sont isolés avec des fouilles de cartables. J'en ai moi-même été témoin à l'époque où j'enseignais. Et puis, il y a également ce qu'on appelle la débanquérisation, donc c'est le fait d'avoir son compte qui est fermé, d'être exclu des banques, au profit donc d'un contrôle de compte d'association, d'influenceur, du jour au lendemain, sans aucune justification.
Et vous êtes particulièrement bien placé pour en parler, puisqu'Academia Christiana subit également ces pressions de plein fouet. Quelle est votre situation aujourd'hui ?
En effet, donc fin 2023, le ministre de l'Intérieur avait menacé Academia Christiana de dissolution pour de simples délits d'opinion, bien que le projet était suspendu aujourd'hui. La pression reste toujours insidieuse, c'est souvent celle de la peur qui est instillée au sein même des institutions qui pourraient être proches d'Academia Christiana, les écoles catholiques, les diocèses, etc. Pour notre université d'été 2026, notre grande université dans l'Ouest, eh bien nous avons essuyé le refus de 7 écoles et internats catholiques qui potentiellement pourraient nous louer, ou nous ont déjà loué d'ailleurs, leurs locaux les années précédentes. Les directeurs de ces écoles n'ont absolument rien contre nous idéologiquement, mais ils sont terrorisés à l'idée d'attirer des inspections du rectorat, les foudres de la presse. Et cette panique touche aussi l'exemple du congrès mission qui avait purement et simplement annulé le stand d'Académie Christiana en novembre dernier par peur du scandale de Libération.
Alors, comment faites-vous face à une telle adversité ? Avez-vous une solution pour cet été ?
Eh bien, nous ne baissons pas les bras, Alexandre. La résilience, c'est un peu notre devoir à Académie Christiana. Grâce justement à des personnes courageuses qui nous ont aidés, qui n'ont pas cédé à la panique, finalement, nous avons trouvé un domaine qui est prêt à nous accueillir cet été. Cependant, c'est néanmoins un défi logistique immense parce qu'il va falloir l'adapter pour pouvoir recevoir autant de personnes que les années précédentes. Actuellement, on peut accueillir 250 personnes en l'état, mais habituellement, nous accueillons 400 jeunes à la semaine, 1000 personnes le week-end. Donc, on va avoir besoin de soutien financier pour aménager cet espace, acheter du matériel, de la logistique, et puis essayer justement de ne pas pouvoir refuser de jeunes et d'être prêt à parer justement à toute menace ou pression.
Voilà, et pour conclure, Victor Robert, quel conseil donneriez-vous à nos auditeurs face à ce rouleau compresseur ?
Eh bien, je leur dirais surtout, chers auditeurs, n'ayez pas peur, faites preuve de courage. Aujourd'hui, je pense que le vrai drame, c'est que notre camp est paralysé, divisé de l'intérieur par la peur. La haine du dehors, celle de l'extrême gauche, elle gagne du terrain uniquement parce que la peur du dedans lui cède. Nous devons donc cesser de nous auto-censurer face à des menaces légales, médiatiques, financières. La seule réponse viable, c'est notre solidarité. Donc je vous invite voilà, à nous unir, à nous soutenir mutuellement, moralement, financièrement, à refuser de fermer nos portes parce que le monde nous fait des gros yeux.
Gardez espoir, chers auditeurs, c'est le message qu'on retiendra. Merci beaucoup, Victor Aubert, d'avoir été avec nous et on vous dit à la semaine prochaine ici sur Ligne Droite.
Ligne Droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Alexandre.
Bonjour Gilles, d'habitude c'est moi qui dis bonjour en premier. Bon, alors,
oui,
la
mais
presse...
comme je voyais un temps de latence.
La presse tente d'en savoir plus sur l'antavirus des Andes qui commence à inquiéter les médecins et la population alors que 5 Français ont été mis à l'isolement au lieu de rester sur leur bateau.
Oui, puis il y en a un autre qui a été hospitalisé. Alors le Figaro pose la question en gros titre et en une que tout le monde se pose à propos de cet antavirus avec un H. La contamination risque-t-elle de s'étendre? Bénédicte Luteau a mené l'enquête et répond en filigrane aux autres questions qui nous inquiètent. 6 ans après l'apparition du coronavirus qui nous a empoisonné la vie, comme celle-ci. Quels sont les symptômes liés aux antivirus du Nouveau Monde? Quelle est la létalité du virus? Y a-t-il des personnes plus à risque? Et quel est le temps d'incubation? Existe-t-il un vaccin? Quelle contagiosité? Et comment limiter la transmission? Alors, ce que l'on sait déjà, c'est que le virus se transmet principalement par la salive, via des micro-gouttelettes, éventuellement le sperme, indique Anne Laverne, virologue à l'Institut Pasteur de la Guyane. La contamination peut avoir lieu lors de contacts sexuels, de baisers sur la bouche ou lorsque l'on postillonne sur son voisin, détaille Anne-Claude Crémieux. Elle peut également survenir lors d'un repas en face à face ou une discussion prolongée, ajoute Éric D'Ortenzio, médecin et épidémiologiste. Lors de la première phase du syndrome cardio-pulmonaire, les patients présentent des symptômes pseudo-grippaux. Alors les symptômes, on les connaît, Alexandre. Hein. C'est la fièvre, les maux de tête, les courbatures, les douleurs abdominales, les troubles digestifs. Après 3 à 5 jours, plus rapidement parfois, la maladie évolue vers une insufficience respiratoire foudroyante.
Petite grippette que vient d'attraper Gilles.
Gilles Brochard qui est en train de
c'est nous quitter.
Voilà, c'est parfait. Existe-t-il un vaccin? Pas encore.
Donc la maladie évolue vers une insuffisance respiratoire foudroyante qui requiert une ventilation mécanique ou une assistance circulatoire, souligne le professeur Khaled, chef du service de réanimation au CHU de Cayenne en Guyane, qui soigne des cas d'antivirus. Alors la dégradation du patient peut être très rapide et comme l'écrit le Parisien qui consacre aussi sa une à l'antivirus, Sébastien Lecornu, qui tiendra 2 réunions par jour, a finalement annoncé pour tous les cas contacts, sans exception, une quarantaine renforcée en milieu hospitalier. Alors ça, vous savez, c'était ce qui s'était passé il y a 6 ans, hein, exactement. Donc à suivre donc.
Voilà, l'Iran menace notre porte-avions et s'il coulait le Charles de Gaulle?
Alors voilà la question inquiétante que pose en une le site Boulevard Voltaire, car c'est désormais officiel, le porte-avions Charles de Gaulle, fleuron de notre marine nationale, fait route vers le détroit d'Ormuz. Il est accompagné, selon la doctrine navale française, de son groupe aéronaval, c'est-à-dire d'un certain nombre de bateaux et d'avions qui vont l'appuyer dans son déploiement. Et en parallèle, le HMS Dragon, navire britannique, prend le même chemin. Alors, effet d'annonce peut-être, mais ce n'est pas rien que de mobiliser notre fleuron, même si la France, à ce stade, n'a pas proposé de débloquer le détroit d'Ormuz. Alors, s'il arrivait vraiment quelque chose à notre navire amiral, écrit Arnaud Florac, que se passerait-il? Entre la gifle et la bombe atomique, nous n'avons pas vraiment de grammaire de la dissuasion parce que les 3 derniers présidents ont détruit notre outil de défense. Envoyer des troupes au sol, c'est exclu. Frapper le territoire iranien, nous entrerions de facto dans une guerre dont nous ne voulons pas. Alors tandis que notre porte-avions nucléaire sombrerait, provoquant une catastrophe écologique et un drame géopolitique, tout en nous déclassant définitivement aux yeux du monde, le cuisinier de l'Élysée, privé de tous les moyens de la puissance, n'aurait plus qu'à secouer les nouilles. Fin de citation à lire sur le site Boulevard Voltaire.
C'est une contre-pétrie, ça, non?
Je peux vous emmener là ce matin encore, mais... Bon, alors, l'événement culturel est bien sûr l'ouverture ce soir du Festival de Cannes.
Oui, le 79e festival est présidé cette année par le sud-coréen Park Chan-wook. Et Cannes fait contre mauvaise fortune, bon cœur, écrit Lacroix. Au total, 22 films sont en lice pour la Palme d'Or. Alors, une nouvelle génération de cinéastes émerge en compétition. Et parmi eux, deux cinéastes français qui risquent de faire parler d'eux. D'abord, Léa Misius, à 37 ans, cette scénariste et réalisatrice ultra douée n'a que deux films à son actif. Ava et les Cinq Diables, et diplômée de la FEMIS, on lui doit trois courts-métrages primés dans de nombreux festivals avant son premier long, coécrit avec son compagnon et directeur de la photographie, mais en parallèle, elle collabore comme scénariste avec de nombreux cinéastes, dont Jacques Audiard, notamment pour Emilia Pérez. Et avec Histoire de la nuit, écrit Lacroix, cette sorte de thriller rural adapté d'un roman du Goncourt, Laurent Levigné, vous savez, Laurent Mauvigné qui a obtenu le Goncourt cette année, qui met en scène une famille prise en otage par des inconnus. Alors, belle distribution avec Afsia Herzi et Bastien Bouillon. Et l'autre spécialiste, l'autre cinéaste, pardon, qui fera parler de lui est Emmanuel Mar, 45 ans, qui vit entre Paris et Bruxelles où il a étudié le cinéma. Alors, le film qu'il présente à Cannes s'appelle Notre Salut. Il s'inspire de son arrière-grand-père, Henri Mar, pour raconter le parcours d'un homme qui débarque à Vichy en septembre 1940, voyant dans le nouveau régime l'opportunité de trouver sa place. Sans réseau ni argent, il veut relever la France de la débâcle grâce à ses idées patriotiques et pragmatiques défendues dans un traité politique édité à compte d'auteur. Alors, comme l'écrivent les journalistes de La Croix, Swann Arlo prête ses traits et son jeu distancié à ce personnage ambigu dans l'un des nombreux films sur la France dans la Seconde Guerre mondiale de cette édition cannoise. Et puis Éric Neuhoff écrit dans une tribune qu'il devrait avoir quotidiennement dans le Figaro pendant la durée du festival. Ça, nous sommes bien fiers. Le film d'ouverture, donc ce soir, hein, est français. C'était d'ailleurs le cas l'année dernière. Le drapeau tricolore flotte sur la croisette. À une époque, Woody Allen faisait l'affaire. Cette époque est révolue. Il était minuit à Paris. Hemingway reprenait un whisky. Ses mœurs ne sont plus de saison. Allen s'ennuie dans son appartement de Manhattan. Il n'y a plus de film de clôture. Nul ne s'en plaindra. Il était en général très mauvais. On projette désormais la Palme d'Or. Il s'agit d'un moindre mal. Avec un peu de chance, ça ne sera pas le contraire d'un chef-d'œuvre. Alors, la fantaisie est une denrée rare au cinéma, écrit Françoise D'Argent dans Le Figaro. Et à Cannes, elle relève du phénomène. Raison de plus pour applaudir la projection en ouverture donc ce soir de la Vénus électrique de Pierre Salvadori, qui cache sous ses airs burlesques ce soupçon de grâce indissociable de toute comédie réussie, avec à l'affiche Gilles Lellouche, Pio Marmaille, Anaïs de Moustier, qui, paraît-il, fait des étincelles dans le rôle de cette fille de foire propulsée, confidente et psy, une saltimbanque par défaut, malmenée par la vie et déterminée à échapper à sa condition. Voilà, c'est dans le Figaro.
Merci Gilles.
Zone libre.
C'est la fête, c'est la joie, c'est la zone libre.
Dites ça avec un sourire plus visible.
Oui, mais voilà, parce que malheureusement, effectivement, toute cette fête et cette joie sont plombées de mon côté par l'apparition de Louis Rigaudière sur le plateau.
Oui, non, mais c'est très dur, je me mettrais vraiment à votre place. Ah, je ne supporterais pas moi-même.
Oui, voilà, exactement. Alors, bon,
quelle souffrance.
Oui,
mais... Là, c'est moins pire de voir... Louis comme ça que moi pendant 3 heures. Ah ouais, ça me fait plaisir, Alexandre,
oui,
c'est
oui,
gentil.
Oui, c'est vraiment une présence qui est très bien derrière un ordinateur, mais un petit peu moins derrière... Bon, bref, peu importe. Mais Louis,
toujours aussi sympathique,
pourquoi,
évidemment.
Non, je rigole, évidemment. pourquoi nous infligez-vous votre présence?
Ah non, bah écoutez, moi j'aime bien quand il y a Gilles Brochard pour lui poser des petites questions, vous savez, sur l'actualité, et voir un petit peu s'il est au niveau, comme ses élèves.
Hein. Intéressant.
On parlait justement de la chute du niveau scolaire avec Michel Valadier tout à l'heure. Est-ce que Gilles sait ce qu'il se passera d'ici un mois et demi?
Bah, d'ici un mois et demi, il y a le bachot. Hein,
non, c'est plutôt le... Comme vous dites, bachelot... Non, c'est le brevet.
Ah oui,
dans un
brevet.
Mois et demi, oui, voilà.
Ah
non, mais
oui,
j'allais pas.
Ah,
allez,
mais il a la bonne réponse.
C'est assez facile.
C'est récurrent.
C'est voilà le brevet des collèges. Et puis, justement, je vous ai découpé un petit sonore pour montrer un petit peu quel type de questions pourraient avoir les élèves d'aujourd'hui. Et vous verrez. Alors, je vais vous citer la question. Quel est le tiers de 18?
Le tiers...
Oh là là, mon Dieu.
6.
Bah écoutez, oui, c'est ça.
Vous avez dit 4, Gilles?
3 fois 4.
Le tiers de 18?
3 fois 4, 18, avec monsieur machin.
Mais... Allez, on va... Okay,
ah non, donc... non, vous avez dit 4.
Non,
c'est 6.
Moi, j'ai dit 6.
Oui, 6.
C'est
3
fois 6, 18. Non, mais voilà, c'est moi, puisque j'étais en train de faire autre chose à côté.
Même avec le certificat d'études, ça ne marche pas.
Mais vous allez voir que dans le sonore que je vous ai découpé, la difficulté n'est pas tant la réponse, mais plutôt la question. Vous allez comprendre.
Cette question va tomber au brevet 2026, alors attention à ne pas perdre un point bêtement. Le tiers veut dire que tu dois diviser par 3. Donc le tiers de 18, c'est 18 divisé par 3. Et 18 divisé par 3, ça fait 6. Pour le brevet, il faut aussi que tu connais ces mots-là, moitié, double, triple. Est-ce que tu les maîtrises vraiment? Dis-le moi en commentaire.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Moitié, double, triple.
Gilles Brochin, visiblement, pense que le tiers de 18, c'est 4.
Mais ça, c'était à l'époque du certificat d'études, ça.
Est-ce que c'est quoi le triple de 18? Tu sais, c'est quoi le triple de 18?
Ah, le triple de 18, là, pour le, là vous m'avez complètement... Non, voilà, vous me perdez, là. Là, je ne saurais pas dire, là, comme ça, une quarantaine, je ne saurais pas. C'est ça, non, mais vraiment, là, je suis mauvais. Mais vous avez peut-être une calculatrice sous les yeux, j'en sais rien.
Non, mais c'est juste que le mental, c'est un peu mon truc. Non, mais
j'admets en tout cas que les mathématiques sont vraiment pas mon fort. Mais en tout cas, je connais la définition du mot moitié. Oui, les statistiques, à la limite. Mais la définition du mot moitié, double et triple, en tout cas, ça ne m'échappe pas. Je pense que c'est pareil pour Gilles Brochard ou Alexandre Franck.
On ne sait pas, parce que pour Gilles, encore une fois, 18 divisé par 3...
Vous adressez à un littéraire,
ça fait 4.
C'est, oui, non, mais...
J'ai beau être littéraire, je sais que 18 divisé par 3 ne font pas 4, cher Gilles Feuille.
3 fois 4, 18. 3 fois 4, 18.
Autre question.
Mais, non, mais voilà, mais non, c'est pour dire que nous en sommes là, que même les mots les plus simples peuvent constituer un blocage pour la question et un blocage pour nos élèves.
Cette affaire avec le mot ludique au bac qui avait été considéré comme
trop complexe. Oui, je me rappelle de cette affaire. C'est extraordinaire. Non, mais parce que voilà, mais bon, c'est beau. Bon,
alors Gilles, on va essayer de vous... on va vous laisser une chance de vous rattraper.
Oui.
Vous dis le chiffre 22 qui est dans l'actualité.
Alors que c'est pas un chiffre 22, c'est un nombre. Hein.
Oui. Qu'est-ce que c'est comme... Pourquoi 22 ?
Pourquoi qui fait l'actualité en ce moment ?
Si vous aviez écouté ma revue de presse.
Si, parce que
il y a 22 films présentés à Cannes en compétition officielle.
Oui, mais oui, alors c'est tout. Voilà. J'étais dans les couloirs de Radio Courtoisie à ce moment-là.
Ne parlez pas tous en même temps parce que les auditeurs ne peuvent plus rien comprendre.
C'est vrai, on s'amuse un peu trop. Non, mais donc on vous demande pas 22 divisé par 3, Gilles.
Allez, on enchaîne.
C'est pas divisible.
Non, mais très bien. Par exemple, quelle est la chute de Constantinople ? C'est quelle année ?
Bon,
ça va, c'est pas si compliqué.
Bon, en quelle année vous avez passé le certificat d'études, Gilles?
Ça, c'est 1421.
Non, ça s'appelait pas comme ça, moi. Non. On appelait ça le BEPS à l'époque.
Ah oui, bah oui, moi aussi. On est du même âge, non? Ouais.
Qu'est-ce que le BEPS?
Bah, à demain.
Attendez, il y a, je crois que quelqu'un veut nous interrompre.
Excuse me. Hey!
Là, il nous signale que c'est la fin de la zone libre.
C'est la fin de la zone libre. Ben, ce serait très bien pour un son de sortie. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup, Louis Rigaudière, d'avoir été avec nous matin ici pour cette zone libre. Il fallait absolument qu'il conclue de cette manière. C'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir été avec nous ce matin ici sur Ligne Droite. Simplement, avant que vous partiez, il faut que nous vous fassions passer un message.
Un message très important puisqu'il constitue, il concerne pardon, la vie de Radio Courtoisie. Radio Courtoisie ne vivant que grâce à ceux qui l'écoutent, il faut que tous ceux qui l'écoutent participent en fonction de leurs besoins. Vous êtes très nombreux à le faire et nous vous en remercions, sinon nous n'existerions pas depuis près de 40 ans. Mais pour se développer et suivre et répondre aux attaques qui nous arrivent, nous avons besoin de vous tous. Alors s'il vous plaît, faites votre don en ligne dès maintenant sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr. Merci.
Voilà, et très bien, il n'y a pas besoin de maîtriser les divisions, simplement n'hésitez pas.
L'addition et les multiplications.
Exactement, voilà, ça suffira. Et tout de suite, on écoute Laurent Martin Saint-Léon qui nous parle de la défaite des Verts il y a 50 ans face aux Allemands.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, je laisse la main à Richard de Sèze, justement.
Eh bien, nous allons recevoir avec plaisir Laurent Martin Saint-Léon, qui est, fan de Saint-Étienne depuis 50 ans à peu près, Laurent.
Exactement, depuis 50 ans. Bonjour Richard, bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie. Depuis cette date du 12 mai 1976, qui a été celle de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, on ne parlait pas de Ligue 1 à l'époque, entre l'AS Saint-Étienne et le Bayern de Munich, un match épique, un match qui va forger la légende des Verts et qui est célébré dans toute la France depuis maintenant près d'une semaine, puisque même le président de la République dont vous parliez précédemment s'est fendu d'un message ce week-end à l'attention des joueurs. Toute la ville de Saint-Étienne a été en liesse. Et pourtant, c'est un paradoxe français, on célèbre une défaite.
Ça me paraît normal que Macron ait effectivement, du coup, décidé de s'emparer de l'événement. Laurent Martin Saint-Léon, on va écouter cet hymne absolument magnifique qui nous a tous fait vibrer à l'époque où nous étions jeunes.
On a un grand public et les meilleurs supporters. On va gagner. Ça
Voilà, et vous tenez d'ailleurs le magnifique 33 tours avec cette panthère qui est l'insigne des Verts. Les Verts, donc, effectivement, sont partis à Glasgow pour affronter le Bayern de Munich. Pas la première fois que les Verts se retrouvent en face du Bayern. Et là, évidemment, les espérances sont grandes. Et le match commence plutôt très bien pour les Français.
Effectivement, c'est la troisième fois en cinq ans. L'année précédente, les Verts s'étaient inclinés en demi-finale face à un Bayern qui, cette fois, était triomphant. Cette finale clôt une épopée, puisque les Verts ont traversé la boue de Saint-Féropol, ils ont terrassé Kiev, ils ont terrassé Eindhoven, ils ont terrassé les Glasgow Rangers. C'est toute une épopée quasi napoléonienne qui s'achève là à Glasgow. 30 000 Français ont fait le déplacement. C'est un événement dans la France
entière. Donc c'est plus de la moitié des supporters de Saint-Etienne qui se sont tous rués au fin fond de
chacun a voulu prendre son billet. Il y avait beaucoup de gens qui étaient présents, beaucoup de stars aussi de l'époque, Jean Amadou par exemple, y compris même Muriel Robin puisqu'elle était petite et qu'elle s'en souvient dans ses mémoires. Donc, beaucoup de gens qui à l'époque ont fait ce déplacement pour aller voir les Verts. Et c'est un match absolument attendu par toute la France qui va très très bien commencer pour la Saint-Etienne puisqu'elle domine dans tous les registres du jeu. Il y a un détail à noter qui n'a échappé à personne, c'est que les Stéphanois jouent avec un short noir. Mauvais présage, malheureusement, ils ont toujours joué avec un short blanc, sauf devant les Glasgow Rangers, et ce soir-là, ils jouent avec un short noir, et on dira, ah, si le short n'avait pas été noir, il y aura d'autres choses aussi, parce que c'est la tenue du deuil, une tenue sombre, et donc, nécessairement, ça impacte aussi pour certains supporters. Et le match commence, il commence bien pour Saint-Etienne qui va tirer sur la barre par l'intermédiaire de Dominique Battenay, par un tir d'une trentaine de mètres, qui va s'écraser sur la barre, et on va parler des fameux poteau parce que cette barre, elle n'est pas ronde, elle est carrée.
Et ça, c'est pas normal parce qu'on était passé au poteau rond depuis un certain temps.
Exactement. La réglementation européenne voulait que les poteaux soient ronds et à Glasgow, à Hampden Park, là où a lieu ce match devant 75 000 spectateurs, les poteaux sont carrés. Donc la fatalité frappe une première fois et elle va frapper une seconde fois lorsqu'un petit peu avant la mi-temps, Christian Saramagna déborde sur la gauche. Saramagna qui sera l'homme du match littéralement. Il centre sur la tête de Jacques Santini. Santini propulse la balle et une fois encore, la balle va s'écraser sur la barre, sur les poteaux carrés. Elle ne rentre pas et on a encore aujourd'hui une école d'ingénieurs à Saint-Etienne qui cherche à savoir si les poteaux avaient été ronds, est-ce que la trajectoire du ballon n'en aurait pas été modifiée et à ce moment-là, la Saint-Etienne n'aurait-elle pu inscrire ce but. Et c'est le moment où la chance passe, en quelque sorte. C'est le moment où finalement, Saint-Etienne, qui mène un match magnifique, qui devrait clore cette épopée par une victoire, qui est poussée par un stade qui lui est totalement acquis, et ben, peu avant la mi-temps, malheureusement, Saint-Etienne ne marque pas, rentre un vestiaire sur un score de 0-0 et le destin va basculer, le match va basculer vers ce qui est considéré comme une injustice nationale, c'est-à-dire que peu après la mi-temps, il y a un coup franc qui est sifflé suite à une faute d'Osvaldo Piazza qui était célèbre pour ses chevauchées un peu rugueuses. Les Allemands surjouent un peu la faute, ils expédient très rapidement ce coup franc alors que le mur de Saint-Etienne n'est pas encore constitué, toujours l'injustice, et puis Kurkovic est battu, la balle est légèrement effleurée par un défenseur stéphanois et le match bascule 1-0. Ça va se terminer dans une scène épique puisque Robert Herbin décide de faire rentrer Dominique Rocheteau alias l'Ange Vert. Il reste 8 minutes de jeu et il fait sortir Christian Saramagna, ce qui est peut-être une erreur parce que c'est l'homme du match, mais en tout état de cause, il fait aussi rentrer Rocheteau qui est très attendu. Et Rocheteau qui est blessé, qui a la jambe bandée, pendant 8 minutes va donner le tournis aux défenseurs allemands, va tout tenter, malheureusement sans succès. La dernière passe qu'il fait à Revelli échoue et Saint-Etienne va perdre, malheureusement. Alors évidemment, l'Ange Vert aura fait ce qu'il fallait, mais c'est trop tard. On est toujours dans l'épique, on est dans la tragédie cette fois-ci, puisque Saint-Etienne n'a pas gagné, et Saint-Etienne va rentrer en France. Saint-Etienne va rentrer en France d'une façon un peu extraordinaire. Les choses vont être un petit peu différentes, c'est-à-dire qu'il y a cette injustice des poteaux carrés, les choses sont un peu exceptionnelles, on est dans la tragédie, les supporters pleurent.
Les supporters pleurent, ils sont à Glasgow, ils ont perdu, c'est la troisième fois qu'ils perdent, c'est assez énervant, et on va en parler juste après cette annonce. Voilà, merci beaucoup Laurent Martin-Saint-Léon d'être avec nous pour évoquer l'anniversaire des 50 ans de cette défaite de Saint-Etienne à Glasgow. À 7h25, ce sera Michel Valadier qui nous parlera, non pas d'une défaite, mais peut-être d'une renaissance, de quoi a besoin l'école en 2027, voilà, avec le nouveau président de la République. Les supporters sont évidemment horriblement déçus. Sur le moment, le fait que le poteau fasse en sorte que la balle ne puisse pas rentrer, c'est pas exactement ce qui s'est dit. On se contente de voir que la balle a frappé le poteau. C'est dans l'après-match qu'on va commencer à s'exciter sur la rondeur ou le caractère carré des poteaux.
Oui, à cause de ce sentiment d'injustice, en fait, en quelque sorte, on nous a volé notre finale, cette finale que toute la France attendait, puisque toute la France est verte. Et effectivement, c'est avant tout l'injustice qui prédomine. Donc, on va chercher à comprendre pourquoi est-ce que la transversale a renvoyé ce ballon et pourquoi le ballon n'est pas rentré dans les cages de Sepp Maier, le brillant gardien du Bayern de Munich. Voilà, donc il y aura des recherches qui seront faites et il y aura effectivement cette découverte. Les poteaux étaient carrés, l'injustice est flagrante, l'injustice est totale. Et c'est dans ce climat d'injustice, en quelque sorte, qui est ressenti comme une frustration par le pays entier, qu'il faut un sursaut national, ce dont est toujours capable notre cher et vieux pays. Et ce sursaut national, il va venir d'un journaliste, journaliste Jacques Vendroux, qui avait prévu 2 jours avant la finale, il avait discuté avec le président de Saint-Etienne, Roger Rocher, et il lui avait dit « Président, si jamais il y a la finale, est-ce que vous êtes d'accord pour que les Verts défilent sur les Champs-Élysées, qu'elles soient perdues ou gagnées ?» Roger Rocher avait dit oui. Donc les joueurs de Saint-Etienne font un crochet par Paris. Ils sont attendus par le président de la République.
On est bien d'accord. Donc c'est l'équipe perdante qui débarque à Paris.
C'est l'équipe perdante qui débarque à Paris, qui débarque un peu la mine des confites, évidemment. C'est la gueule de bois pour tout le monde, notamment pour les supporters. Et puis il va se passer cette chose extraordinaire, c'est que vos confrères de France Inter ont décidé d'organiser une manifestation en bas des Champs-Élysées. Et les Verts, à bord de R5, dont certaines sont vertes, avec des toits ouvrants, vont remonter les Champs-Élysées, à l'initiative donc de Jacques Vendroux. Jacques Vendroux qui n'est pas n'importe qui, c'est le petit-neveu du général de Gaulle. Donc, vous voyez toujours l'histoire qui se rattrape en quelque sorte. On est sur les Champs-Élysées. On n'a pas défilé sur les Champs-Élysées depuis la Libération. Et les Verts remontent les Champs-Élysées dans ces R5.
Enfin, on a défilé en 68. Hein,
et 68, pardonnez-moi, vous avez raison, et 68. Quand je dis défilé, c'est une réaction. 68, c'est encore autre chose, mais vous avez tout à fait raison. Et en 76, donc cette fête joyeuse qui se met en place autour des Verts et qui permet aux Verts de remonter les Champs-Élysées dans cette célébration. Ils arriveront en retard, en fait, à l'Élysée, avec 1h30 de retard. Valéry Giscard d'Estaing les attend. Et ils sont célébrés en héros. Ils sont célébrés en vainqueurs. Finalement, on a transformé la tragédie. On est dans la négation de la défaite. C'est un pays entier qui se veut vainqueur, qui estime que finalement, on lui a volé la victoire. Et c'est peut-être finalement une légende qui s'est créée à ce moment-là, en effet. C'est-à-dire qu'on estime que finalement, Saint-Etienne a peut-être, par procuration, remporté cette finale de la Coupe d'Europe.
Même les Anglais, dans leurs journaux, ont expliqué que les Allemands avaient gagné à tort, que c'était un larcin. La presse internationale donne tous les points, si je dis, à Saint-Etienne qui a joué un meilleur match que la copie un peu appliquée et dépassionnée que les Allemands ont livré.
C'est exactement ça. Alors, les Allemands qui ont livré un jeu implacable à l'allemande, très efficace, un verrou parfait. Mais effectivement, le Daily News va titrer « Saint-Etienne a gagné nos cœurs ». C'est l'Europe entière qui devient verte. C'est une ville entière qui est verte. C'est la France entière qui est verte. C'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que 50 ans après, la ferveur n'est pas retombée. On est toujours dans une commémoration. On est toujours dans une célébration de ce qui restera certainement comme le match de football le plus emblématique de ces 50 dernières années. Ce cinquantenaire, ça n'est pas n'importe quoi, c'est une fête, effectivement, une fête qu'on commémore encore.
Alors, comment expliquer justement, alors, vous étiez venu en mars pour nous parler de la victoire contre Kiev, donc merci d'être toujours aussi enthousiaste.
Ah, je suis récidiviste.
mais comment expliquer que 50 ans plus tard, justement, une défaite soit à ce point-là célébrée? Et il y a eu un immense documentaire de 52 minutes sur les chaînes publiques. Des groupes Facebook ont émergé partout. Le culte, effectivement, a regagné la ville de Saint-Etienne. Emmanuel Macron, le digne successeur de Valéry Giscard d'Estaing, est monté au créneau. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, et pourtant qui mériterait de l'être. Les Verts remontent les Champs-Élysées. C'est une victoire et aucune vitrine n'est brisée, aucun mortier n'est tiré, aucun arbre n'est abattu, aucun abribus n'est saccagé. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes les caractéristiques normales de la fête ne sont pas là?
Parce que c'était la fête d'avant et que c'est peut-être ce qui manque en effet à l'heure actuelle à notre pays. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette nostalgie de cette époque, ces R5, ces pantalons pattes d'éléphant, cette joie en fait, puisque cette manifestation qui avait été organisée sur les champs Champs-Élysées a été assez spontanée. En réalité, les gens ont quitté leur travail pour venir célébrer les Verts. Il était midi à peu près. Ils se sont précipités, les Parisiens sont précipités sur les Champs-Élysées. Donc il y a cette spontanéité qui n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut encadrer immédiatement parce que sinon, on sait qu'on a un déferlement de bandes sur les Champs-Élysées. Donc en fait, vous l'avez dit vous-même, c'est une nostalgie. C'est un destin français, une nostalgie. C'est une défaite qu'on transforme en victoire parce qu'en fait, on a envie de célébrer une France d'avant, une France qui n'était peut-être pas vainqueur, mais qui, quelque part, incarnait une certaine joie de vivre. On est juste avant la grande sécheresse de 1976, et à l'époque, on ne s'inquiétait pas des catastrophes naturelles, des difficultés. On les vivait au quotidien, peut-être très différemment d'aujourd'hui. Donc, c'est effectivement une nostalgie qui s'est emparée de la France cette semaine, qui s'est emparée de la ville de Saint-Étienne, mais pas que de la ville de Saint-Étienne, vous l'avez souligné. Partout en France, il y a des groupes de supporters qui se sont manifestés. Toute la journée, sur les ondes de vos confrères, il y a des commémorations radiophoniques ou télévisuelles qui sont organisées, et notamment le documentaire de 52 minutes qui est passé dimanche soir. Et si Emmanuel Macron, effectivement, ne s'y est pas trompé et s'est fendu d'un message, c'est parce qu'il veut lui aussi célébrer cette nostalgie française, peut-être pour faire oublier ce présent très difficile.
On va peut-être réécouter, si Franck veut bien, une petite quelques secondes de cet hymne qui nous a fait vibrer une
fois
plus.
Cet hymne du chanteur Monty, tout à fait.
Allez, qui sait les plus forts, évidemment, c'est les Verts.
Merci beaucoup Franck. Voilà, et si Marine Tondelier nous écoute, eh ben nous lui adressons nos plus vives et chaleureuses salutations. Laurent Martin Saint-Léon, voilà, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
J'espère qu'il y a d'autres grands moments de football français qu'on pourra revivre ensemble.
Il y en a beaucoup et ce sera avec plaisir puisque c'est une nouvelle génération du football qui s'incarne après Saint-Étienne justement et on va basculer sur la Coupe du Monde de 1978 et le tandem Hidalgo-Platini, mais c'est une autre histoire.
Allez, rendez-vous dans 2 ans.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Merci à tous, merci chers auditeurs d'avoir été avec nous ce matin ici sur ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie. Merci de nous avoir suivis, d'avoir écouté les entretiens, d'avoir participé à votre façon par vos appels ou alors par vos messages dans le chat sur YouTube ou sur X. Simplement, eh bien, désormais, il faut que, en plus de participer, vous participez, on va dire par vos mots, que vous participiez par des actes.
Des actes sonnant et trébuchant, voilà. J'imagine. Je vous voyais venir, je ne sais pas pourquoi vous avez envie qu'on demande à nos auditeurs de nous aider. Merci à vous tous d'aider Radio Courtoisie à défendre vos idées. Merci de l'aider à conduire, à continuer sa route. Soutenir.rc.fr, c'est l'adresse pour faire des dons en ligne et soutenir Radio Courtoisie. Je vous la redonne. Soutenir.rc.fr et également les chèques au 61 boulevard Murat, 75 016, sans oublier de les libeller à l'ordre de Radio Courtoisie. Merci.
Voilà, merci beaucoup Franck, et il faut quand même que vous nous expliquiez quelque chose, quel est le programme du jour?
Dans quelques secondes, le national-socialisme, les dossiers secrets révélés par Antoine Michelan avec son dernier livre, Les relations du duc de Windsor dans les mardis de la mémoire d'Anne Collin. À midi, le libre journal de la musique et de la culture de Didier Rochard pour un hommage à France Clida, dont j'apprends en même temps que vous le décès, une pianiste internationale surnommée Madame Liszt et grande amie de Radio Courtoisie. À 16h, planche Casse-Zébul de Richard de pour Hermann. À 16h30, le RC Mag de Jean-Étienne Poza avec Pierre-Jean Chalençon aujourd'hui. 17h30, Restons Courtois avec Richard de Seize, François Guéranger, Pierre Marissev et Christophe Boutin pour cette question. Nunez et les juges font-ils régner la justice? Et puis à 19h30, le libre journal de la France libre d'Henri Foucrot et à 21h30, le libre journal de l'Occident de François-Xavier Jiquel, l'approche des midterms où en est Donald Trump et puis la soirée musicale de Virginie à 23h, une heure avec Frédéric Chopin.
Voilà, le libre journal de l'Occident, ce sera notamment avec moi. J'ai eu la chance d'y participer. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Moi, je vous dis de mon côté à demain, 7h, pour suivre à nouveau Ligne Droite.
À demain, 7h.